Nove FM Weekend. Nove FM. La biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Nove avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Vous êtes bien sur Nove FM, un nouveau rendez-vous aujourd'hui de la biodiversité samedi avec, on le rappelle toujours, le syndicat mixte de la baie de Bourneuf qui invite aujourd'hui une experte. Alors pour la première fois sur Nove FM, on va parler d'une espèce en particulier, celle du canard souché, de sa proie privilégiée, les invertébrés d'eau douce, de leur relation, de l'alimentation. Donc pour en parler, en dernière année de doctorat à l'université de La Rochelle, c'est Axel Moreau, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en train de préparer une thèse, vous venez aujourd'hui en tant qu'experte, mais aussi en tant que représentante de la Fédération des chasseurs de Vendée. Vous y êtes salariée, on peut expliquer un petit peu le contexte de votre parcours ?
Oui, alors en effet, je suis doctorante à l'université de La Rochelle, mais je suis dépendante et salariée de la Fédération des chasseurs de la Vendée, car ils financent le projet de recherche, donc je suis basée la plupart de mon temps à la Fédération des chasseurs de la Vendée.
À La Roche-sur-Yon ?
À La Roche-sur-Yon.
Pourquoi ce financement ? Alors, on peut être surpris effectivement de cette démarche de la Fédération ?
Eh bien, la Fédération de Vendée est assez avant-gardiste, elle a un service environnement, on est 7 personnes à temps plein. Et on a réalisé plusieurs études sur le lien entre les oiseaux d'eau et les invertébrés. Et elle a voulu pousser un peu plus loin les études et a décidé de monter un projet de recherche.
L'intérêt pour la fédération ?
Eh bien, de continuer à réaliser des études en environnement, car tout le monde le sait, l'environnement, c'est l'avenir. Donc, du coup, ça reste important d'étudier la nature, la biodiversité et ce type d'espèce emblématique du marais breton, qui est le canard souché.
Alors, vous préparez donc cette thèse, c'est la dernière année, c'est une étude du lien, alors je vais citer, entre le canard souché et les invertébrés d'eau douce en halte prénuptiale. On va expliquer tout ça pendant l'émission. C'est quand même très très précis, votre sujet de recherche. Comment il s'est forgé au fil du temps ?
Eh bien, ça a commencé en 2015, donc j'étais pas encore là, où la Fédération a mené des études en marais breton sur le lien oiseau d'eau, végétation aquatique et hétérogénéité des niveaux d'eau. Ils ont trouvé des résultats super intéressants, mais il manquait quand même quelques petites informations et ils se sont doutés que c'était la ressource alimentaire qui aurait permis d'expliquer la présence des oiseaux nicheurs en marais breton. Ils ont décidé de recruter une stagiaire, donc moi, sur le lien entre oiseaux d'eau et invertébrés d'eau douce. Et au fil des conversations, des sujets, c'est là où on a décidé de monter le projet de recherche, où ensuite on a démarché les universités, particulièrement l'université de La Rochelle, où Pierrick Baucher et Christine Dupuis ont décidé de nous encadrer, et de m'encadrer plus spécifiquement, et de partir avec nous dans ce projet qui a duré 3 ans, et on en est plutôt sur la fin.
Sur la fin, vous serez docteur à l'issue de cette recherche ?
Eh bien, je l'espère.
Alors, docteur en quoi ?
Eh bien, ce sera docteur en environnement, et plus spécifiquement sur le canard souché et les invertébrés d'eau douce.
Alors, on va parler de ce sujet, puisqu'en plus, c'est une espèce qui est très emblématique du secteur où l'on vit, où on nous écoute. Le canard souché est très présent dans le marais breton, donc vous l'étudiez depuis des années maintenant. À quoi il ressemble, ce canard ? Il est assez familier ?
Alors, ce canard, il est plutôt petit, ça reste un petit canard de surface, et il a la particularité d'avoir un bec en forme de spatule qui lui donne un visuel très reconnaissable. Et en plus de ça, il a énormément de lamelles. Le bec des canards est constitué de lamelles et du coup, il a énormément de lamelles, 21,5 lamelles par centimètre pour être précis, et ce qui est le nombre de lamelles le plus élevé que l'on puisse trouver chez les canards et qui lui donne un système de filtration très sophistiqué pour s'alimenter.
Alors justement, on va en parler, puisque c'est le sujet aussi de votre recherche. On a beaucoup d'individus de cette espèce dans le marais breton ?
Il y en a énormément. Le marais breton et aussi bien le marais poitevin sont quand même deux zones humides d'importance internationale pour la nidification et également l'hivernage des oiseaux d'eau, aussi bien les canards que les limicoles. Et en marais breton, on est sur un hotspot de reproduction avec 1400 couples nicheurs qui ont été comptabilisés en 2015. Et ce qui correspond à 75% de l'effectif nicheur national.
Ah, donc c'est vraiment une grande majorité ici. Mais vous étudiez aussi le marais poitevin ?
Oui, quand on met une étude, c'est bien de comprendre si on veut comprendre pourquoi les oiseaux sont présents dans une zone humide, donc pour le coup le marais breton, c'est toujours intéressant de comparer ce qui se passe dans une autre zone humide. Et en Vendée, aller en marais poitevin était assez facile, comme on est quand même sur deux grandes zones humides de la Vendée.
Vous avez deux grands objectifs dans votre thèse. Déjà, une étude saisonnière, et vous étudiez étudié les invertébrés d'eau douce, la première proie en fait de ce canard.
En effet, le canard souchet est un canard qui est plutôt carnivore. Il est omnivore, mais à majorité carnivore. Donc il s'alimente la plupart de son temps d'invertébrés d'eau douce. Il va y avoir quelques exceptions qui vont être sur sa période d'hivernage où les invertébrés vont être un peu moins présents, où il va s'alimenter un peu plus de végétaux.
Et donc vous vous intéressez effectivement à cette saisonnalité. Autre objectif, alors plus comportementaliste on va dire, hein, vous étudiez les relations entre le canard et sa proie, les invertébrés, dans une période qui est très particulière aussi.
En effet, on a mené l'intégralité de notre étude sur la période de halte prénuptiale. Donc sur le cycle de vie d'un canard, il va y avoir plusieurs périodes qui vont être la période d'hivernage, donc qui va se passer en hiver, et la période de reproduction qui va se passer au printemps et en été. Et pour relier son site d'hivernage et son site de reproduction, qui ne se situe pas du tout au même endroit pour cette espèce, comme c'est un oiseau migrateur, il va devoir effectuer une migration entre le site d'hivernage et de reproduction, appelée la migration prénuptiale. Et comme ce canard est de petite taille, il ne peut pas effectuer son trajet d'une seule traite. Donc du coup, il va devoir faire des pauses. Et ces pauses sont appelées les haltes prénuptiales.
Alors justement, c'est passionnant. Comment se passe ce cycle aussi de migration? Où va-t-il hein, l'hiver, l'été? Et puis alors évidemment, ses caractéristiques. On fait une petite pause musicale et on vous retrouve après pour en parler, Axel Moreau. Samedi dans la biodiversité, samedi avec Axel Moreau en dernière année doctorat à l'université de La Rochelle et salarié aussi de la Fédération des chasseurs de Vendée, donc qui eh bien vous soutient dans cette recherche. On parle aujourd'hui du canard souché, assez emblématique du nord-ouest Vendée, et vous l'avez dit avant la pause, c'est d'abord et avant tout un oiseau migrateur. Est-ce qu'on connaît voilà le cycle de migration? Le canard là, il est là encore en ce moment ou il est déjà parti?
Alors en ce moment on va quand même en avoir parce qu'on trouve quand même des canards souchés toute l'année en Vendée. Pour les oiseaux qui vont se reproduire chez nous, ils vont passer la plupart de leur temps pour la période d'hivernage dans le sud de l'Espagne ou le nord de l'Afrique. Et ensuite, pour les canards qu'on va retrouver en halte chez nous ou un peu en hivernage, ils vont aller effectuer leur reproduction. Donc là, c'est assez varié. Ça peut aussi bien être dans le nord de la Russie comme dans le, au Royaume-Uni. Et on a même eu des oiseaux qui ont été se reproduire en Ukraine. Donc ce qui donne un panel assez varié de pays et une amplitude assez grande.
Mais globalement, on le retrouve un petit peu partout dans le monde, ce canard ?
On ne va pas le retrouver partout dans le monde, majoritairement en Europe, nord de l'Afrique, et on le retrouve quand même en Amérique.
Alors donc très présent, vous l'avez dit en première partie, hein, dans les marais vendéens, c'est même un hotspot, vous disiez. C'est un site privilégié en France hein, pour le canard souché. Pourquoi, d'après vous ?
Eh bien justement, pourquoi ? C'est un peu le but de cette étude. Pourquoi on retrouve majoritairement le canard souché dans le marais breton ? On a étudié par conséquent les habitats du marais breton pour essayer de les comparer aux habitats notamment du marais poitevin. Et il est vrai que la densité de plans d'eau en marais breton doit être un réel atout pour cette espèce.
Oui, on va reparler de l'importance effectivement qu'il ait des zones humides autour de lui. Un temps ou trajet, donc surtout que vous étudiez en particulier, celui donc des migrations prénuptiales et donc des haltes prénuptiales. Ça fait partie vraiment du titre de votre recherche.
Exactement. On s'est vraiment intéressé à la halte car c'est une période qui n'a pas réellement été étudiée. Pourtant, c'est une période de grand intérêt pour cette espèce car les oiseaux vont devoir se ravitailler énormément, engorger énormément d'énergie et de protéines pour réaliser les trajets migratoires qui sont extrêmement coûteux pour cette espèce et pour l'ensemble des oiseaux migrateurs, car quand ils vont arriver sur leur site de reproduction, ils doivent être en super condition pour être aptes à se reproduire relativement rapidement pour ensuite assouvir une descendance.
Ça se passe où ? Ça dure combien de temps cette halte ?
Alors la halte, ça se passe, donc pour le coup chez nous, ça va être en marais, dans les zones humides, et ça a une durée assez variable entre les espèces. Ça va dépendre aussi bien de la quantité de ressources, de l'habitat, du dérangement, de la prédation. Beaucoup de facteurs vont influencer la durée d'une halte, mais ça va, en général, on va être sur un minimum de 3 jours et ça peut durer à peu près 15 jours le temps de se ravitailler.
Alors vous faites plein d'études, hein, y a plein de choses qui sont étudiées. Alors déjà, vous avez cherché à savoir s'il y avait un comportement différent alimentaire hein, sur ces sites de halte entre les mâles et les femelles. La réponse, c'est...
Il n'y en a pas. On peut supposer que la plupart du temps, du moins en période de reproduction, la femelle, elle va moins s'alimenter que le mâle, car elle va être plus sur son nid. Par contre, en période de halte, aussi bien les mâles que les femelles ont besoin de protéines pour effectuer leur trajet. Donc, aussi bien les mâles que les femelles vont s'alimenter de la même manière sur les sites, mais également les adultes et les juvéniles, donc les individus qui ont moins d'un an.
Donc, sur les sites des habitats, vous les étudiez aussi. Il y en a plusieurs, en fait, plusieurs formes.
En termes d'habitat, on va avoir réellement distingué les plans d'eau des prairies humides. Donc, il y a une majorité de prairies humides en marais poitevin, comme le marais poitevin a une densité de plans d'eau moins importante que le marais breton. Il y aura un peu moins de prairies humides en marais breton, mais ça va être les deux habitats privilégiés du canard souché, bien qu'il préfère tout de même les plans d'eau. On a retrouvé 58% de plans d'eau dans l'intégralité des domaines vitaux, donc c'est-à-dire des zones de vie des canards que nous avons étudiées.
D'où l'importance effectivement du marais breton qui est bien doté hein, pour ce canard. Alors pour en savoir plus, comment vous travaillez ? Vous travaillez avec quelques individus que vous avez équipés de balises déjà.
Exactement, on a équipé plusieurs individus de balises GPS. Donc nous en avons étudié 15, nous avions équipé plus d'individus, mais bon, nous sommes en période de halte, donc plusieurs individus sont repartis immédiatement, donc nous n'avons pas pu étudier leur halte en marais breton. Mais 15 individus sont restés réellement effectuer une halte, donc grâce aux balises GPS. Donc c'est des petites balises qui pèsent 10 grammes posées sur le dos des canards. On a pu étudier leur déplacement, donc on a des informations de déplacement qui sont transmises quotidiennement sur l'ordinateur, qui nous permettent de comprendre réellement comment l'oiseau utilise l'habitat.
J'imagine que c'est fascinant ça de le voir, et puis vous le voyez tout au long de l'année ?
Tout au long de l'année, donc c'est vraiment intéressant. On peut voir en effet les trajets migratoires, donc tout d'un coup, le matin, l'oiseau peut être en marais breton, et dès le lendemain, il peut être rendu au nord de la France sans souci.
Et alors, il peut aussi être chassé, ce canard ?
En effet, c'est une espèce chassable, à peu près dans tous les pays par lesquels nos oiseaux sont passés, c'est une espèce chassable.
Et alors là, vous les suivez depuis quand, ces 15 canards ?
Alors, l'étude a commencé en 2020, donc on a posé des balises en 2020. On a eu un petit quid du Covid, comme beaucoup, donc on n'a pas pu équiper autant d'oiseaux que nous voulions. On a continué d'équiper en 2021. Donc certains oiseaux ont pu être suivis 2 ans, d'autres 1 an et d'autres un peu moins longtemps pour divers problèmes qui peuvent être aussi bien en effet la chasse que la prédation ou encore des balises qui n'émettent pas ou ne transmettent pas de signal GPS.
Ça, forcément, la balise, elle ne vous renseigne pas sur la raison d'un arrêt.
Non, on peut avoir quelques informations. Si c'est de la prédation, par exemple, on peut vite s'en rendre compte. Concernant la chasse, on a énormément eu de retours. En général, un oiseau chassé, on a eu un retour de balise, parce que sur les balises, on mettait nos adresses mail. Et ensuite, quand c'est des balises qui arrêtent d'émettre, là, par contre, je peux pas réellement savoir la cause.
On rappelle, le sujet, c'est évidemment aussi son alimentation, les petits invertébrés, mais pas seulement. Alors justement, qu'est-ce que le canard mange ? Quel est son rythme aussi d'alimentation ? Vous l'étudiez, on en parle dans 3 minutes. Ce samedi 5 novembre, et nous sommes dans la biodiversité samedi. Nous parlons aujourd'hui du canard souché. Il nous intéresse avec une chercheuse qui prépare un doctorat. C'est la 3e année avec l'Université de La Rochelle, mais aussi la Fédération des chasseurs de Vendée. Axel Moreau est avec nous. Donc vous étudiez depuis un petit moment maintenant ce petit canard, son alimentation, l'importance qu'elle soit riche, on l'a compris, pour lui permettre de bien évoluer et migrer. Et vous étudiez aussi, grâce notamment aux balises, et puis surtout avec des analyses fines du milieu, son rythme d'alimentation, de sa recherche aussi d'alimentation.
En effet, donc on a étudié le rythme journalier des canards. Donc c'est très connu en hivernage. Les oiseaux vont s'alimenter de nuit sur des sites appelés des sites de gagnage. Et ensuite, la journée, ils vont effectuer leurs activités de repos sur d'autres sites, des sites qu'on va appeler des sites de remise. Et grâce aux balises, on s'est rendu compte que les canards en halte réalisent le même trajet quotidien, c'est-à-dire utilisation de sites d'alimentation nocturne et de sites de repos diurne en journée. À savoir que en journée, les oiseaux effectuent leurs activités de repos, mais à cette période très importante où ils ont besoin d'énormément d'énergie, ils vont également s'alimenter de jour.
Vous nous en avez parlé au début d'émission. Pour étudier son régime alimentaire, déjà on va étudier sa morphologie et son bec. Et il nous apprend beaucoup de choses, son bec. On peut rappeler, hein, il permet de filtrer l'eau déjà.
En effet, le bec du canard souché est doté de nombreuses lamelles qui sont très denses, qui lui permet de filtrer les proies et des proies de petite taille. C'est le mécanisme de filtration le plus sophistiqué des canards de surface, donc ce qui lui donne une niche alimentaire très, très spécifique et propre à lui et qui lui permet de ne pas rentrer réellement en concurrence avec les autres espèces de canards.
C'est un super canard, en gros.
Exactement, il est vraiment chouette.
Alors, qu'est-ce qu'il mange ?
Alors, on a réalisé une étude de son alimentation. Grâce à cette étude basée sur les isotopes, un petit mot complexe.
Mais que vous allez nous expliquer.
Exactement. Donc, ce qu'on appelle les isotopes, on a étudié en fait le carbone et l'azote au sein du plasma des canards. Le plasma, en fait, va pouvoir nous renseigner de l'alimentation du canard avec une signature fine, donc c'est-à-dire de 3 jours maximum une semaine. Donc c'est la méthode la plus précise que nous pouvions avoir pour étudier son alimentation à un instant T. Donc on a réalisé cette étude, donc on a fait également des petites prises de sang par capillarité sur nos canards. Et grâce à ça, on s'est rendu compte que les canards souchés s'alimentaient majoritairement de micro-crustacés, donc de tout petit crustacé d'une taille de l'ordre de 0,2 mm, voire un tout petit peu plus gros, mais pas beaucoup plus gros, donc qui sont des copépodes et des cladocères. Ils vont également s'alimenter de petits hémiptères, des Pleidae pour être précis. Les canards souchés s'alimentent également de chironomes, donc plus connus pour les locaux par le mot ver de vase. Donc c'est également une part importante. C'est des vers rouges qui se retrouvent dans la vase, mais également à la surface de l'eau. Et le canard souché va s'alimenter de ces petites proies quand elles sont à la surface de l'eau. Et ensuite, l'autre point très important, qui n'avait jusque-là pas réellement été prouvé, c'est que le canard s'alimente également énormément de matières organiques particulières, donc c'est-à-dire tous les débris, tout ce qu'on va pouvoir trouver en particules fines en fait dans la colonne d'eau, du fait de son mécanisme de filtration, ça reste une part très importante de son alimentation.
Et des végétaux ?
Des végétaux à cette période-là, très peu. On n'a pas trouvé de végétaux dans son alimentation à cette période-là. On suppose qu'il y a une part que nous n'avons pas expliquée, qui peut être justement les végétaux. Mais les végétaux, c'est vraiment plus dans la période d'hivernage où ils vont s'alimenter de végétaux. À cette période-là, ils ont réellement besoin de protéines.
Alors, toute l'étude, si on le rappelle, pendant cette halte prénuptiale, avant la reproduction, c'est aussi dans ces deux zones humides de Vendée, le Marais Breton et le Marais Poitevin. Qu'apprend-on de la différence, en fait, à travers ces recherches de ces deux milieux ?
Alors, en termes d'habitat, entre le Marais Breton et le Marais Poitevin, c'est réellement la densité de plans d'eau qui va jouer. Donc, en Marais Breton, les oiseaux se sont concentrés majoritairement sur des plans d'eau, donc on était sur l'ordre de 70 à 80% de plans d'eau dans leur domaine vitaux, donc dans leur lieu de vie, alors qu'en Marais Poitevin, on avait une densité plus importante de prairies humides, car les plans d'eau sont plus dispersés. Mais les plans d'eau, quand il y en avait, étaient quand même importants dans leurs domaines vitaux. Et à savoir également que bien que les domaines vitaux réellement ne changeaient pas, la taille des domaines vitaux ne changeait pas entre les deux zones humides, l'étendue pour prospecter des habitats, des plans d'eau et des prairies humides était bien plus importante en Marais Poitevin du fait d'une plus faible densité de zones en eau.
En tout cas, ce qu'on comprend au final de toute cette recherche aussi, c'est que sans ces zones humides, le canard souché, il peut pas s'arrêter, il peut pas s'alimenter, il peut pas se reproduire.
En effet, c'est super important pour le canard souché, mais également énormément d'espèces de canards et d'oiseaux d'eau tout simplement, d'avoir des zones humides, des habitats en eau pour aussi bien s'alimenter, se reposer, réaliser en fait l'intégralité de leurs activités quotidiennes.
Je peux quand même vous poser cette question. Vous travaillez donc à la fois pour cette recherche universitaire et pour la fédération départementale donc des chasseurs de Vendée. Donc vous soutenez quelque part cette préservation de ces canards, mais vous savez qu'ils sont aussi chassés. Il n'y a pas une sorte de dichotomie dans ce travail?
En effet, ça, on soutient les deux points de vue, mais je pense que quand une espèce se porte bien, comprendre pourquoi elle se porte bien et continuer d'améliorer son habitat en sa faveur, c'est quelque chose d'important. Donc, en effet, pour la Fédération des chasseurs, comprendre l'habitat d'une espèce qui va bien reste quand même un enjeu important, car elle se porte bien en France, elle se porte bien en Vendée, en marais breton, c'est un site très important pour cette espèce, mais ce n'est pas forcément le cas partout à travers le monde, mais complètement indépendamment de la chasse.
La recherche, elle se termine quand pour vous?
Alors, elle se termine donc en décembre, idéalement pour le rendu du rapport, et ensuite la soutenance en février.
Oh là, j'imagine que vous avez hâte, non? Quand on arrive à la fin?
Hâte, en effet, hâte, parce que bah oui, c'est quand même une période assez intense de rédaction, mais oui.
3 ans de travail. Alors pour terminer, je pense que Julie Aissager vous a prévenu. Je pose toujours une question sur la biodiversité, sur l'importance de la protéger. Et cette année, je pose cette question en particulier. Selon vous, là, est-ce qu'il y a un grand enjeu à côté duquel on ne doit pas passer?
Eh bien, je pense que pour moi, la préservation des zones humides est quelque chose d'important au vu de nombreux service écosystémique qu'elle permet et qu'elle nous donne, notamment aussi bien dans la préservation des crues, ce genre de choses. Donc c'est des services rendus aussi bien à l'homme, mais également des services rendus aux espèces, c'est-à-dire qu'on va retrouver de nombreux invertébrés, de nombreuses plantes dans ces zones humides qui sont des ressources alimentaires très importantes pour de nombreuses espèces. Et si l'on ne préserve pas justement les zones humides, on aura du mal à préserver toutes les espèces qui sont associées, les oiseaux et aussi bien des vertébrés qui peuvent être terrestres ou aériens, donc comme les oiseaux.
Donc on ne passe pas à côté de la défense de ces zones humides.
En effet.
Merci beaucoup Axel. Voilà, on retrouve l'émission très très vite en podcast sur le site et l'appli de Nov. Très très bon week-end à tous. Et puis voilà, on se retrouve dans un mois maintenant, en décembre, pour la dernière émission de l'année.
J'ai la mer au-dessus de mon âme.